Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Nous nous rendrons dans un instant dans le nord-ouest de l'Allemagne, à Münster, où un conducteur a précipité son véhicule sur une terrasse bondée d'un café. Bilan provisoire, 4 morts et 30 blessés, précision de Nathalie Versieux. Abrogation de catch and release, garde nationale envoyée à la frontière mexicaine. L'administration Trump dramatise la lutte contre l'immigration clandestine. Décryptage de Grégory Phillips. Également au sommaire de cette édition, le conflit salarial, Air France et un détour par le salon du livre politique à la fin de cette édition où nous retrouverons Ludovic Piétenu. Un peu avant 17h, le porte-parole de la police de Münster confirmait une information livrée dans un premier temps par le site internet du Spiegel. Un conducteur a précipité son véhicule sur la terrasse d'un café du centre-ville, une ville du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Nathalie Versieux nous appelle de Berlin.
Oui, effectivement. Il faut quand même rappeler que le Kippenkerl, c'est un bar à bière de tradition qui se trouve au cœur de la vieille cité de Münster où les habitants et les touristes ont l'habitude de se retrouver. Et la terrasse était pleine cet après-midi. Il faisait presque 20 degrés lorsque donc une camionnette a foncé sur la terrasse faisant 3 morts et 30 blessés. Enfin, il est question de jusqu'à une cinquantaine de blessés. La police a confirmé que le suspect s'est donc donné la mort, soit dans la voiture, soit à proximité de la voiture. On ne connaît pas encore ce détail. Et les inspecteurs inspectent les restes du véhicule à la recherche d'éventuels explosifs. Les blessés sont toujours soignés sur place ou bien ont été transportés, pour ceux qui étaient transportables, vers les hôpitaux de la région. Et c'est donc toujours l'état d'urgence à Münster.
Voilà, Nathalie Versieux en direct de Berlin. 4 morts et des dizaines de blessés. C'est le dernier bilan livré à l'instant par le ministère de l'Intérieur. Depuis hier, reprise des bombardements, d'incessants bombardements menés par le régime syrien et ses alliés sur la ville de Douma, où seraient encore rassemblés près de 10 000 combattants du groupe Jaïch al-Islam. Douma est la dernière enclave de la route orientale à résister à Damas. Ce décret agaçait les pontes républicains depuis toujours. Ce décret catch and release qui laisse tout immigrant interpellé libre de ses faits et gestes tant que la justice ne s'est pas prononcée sur la légalité de sa présence sur le sol américain. Alors hier, Donald Trump l'a abrogé ce décret quelques jours seulement après avoir décidé d'envoyer la garde nationale à la frontière avec le Mexique. La situation serait à ce point alarmante. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Mathieu.
Vous êtes en direct de Washington. Grégory, je vous la pose cette question. À la frontière mexicaine comme ailleurs, est-ce qu'il est urgent d'intervenir de la sorte ?
Alors écoutez, je vais vous donner les chiffres publiés il y a quelques jours par le département de la sécurité intérieure. Pour toute l'année 2017, 310 000 clandestins ont été arrêtés à la frontière. C'est le niveau le plus bas depuis 45 ans. On est très loin des chiffres enregistrés par exemple au début des années 2000 avec 1,5 million de personnes, 1,5 million de migrants illégaux interpellés pour la seule année 2000. Donc urgence non, mais il y a une volonté visiblement du président américain de remettre l'immigration au cœur du débat. Faut pas oublier que les élections de mi-mandat approchent, ce sera dans 8 mois maintenant Mathieu.
Et c'est donc pour ça que Donald Trump fait feu de tout bois sur les questions d'immigration depuis quelques jours.
Alors sur le programme DACA par exemple, vous savez, qui permet aux jeunes immigrés arrivés mineurs sur le sol américain d'être temporairement régularisés, eh bien Trump a tweeté que le DACA était mort et enterré. Le même jour, Trump s'en prend violemment aux autorités mexicaines qu'il accuse de ne rien faire pour empêcher des caravanes de migrants de monter vers les États-Unis. Puis deux jours plus tard, il y a l'annonce du déploiement de la garde nationale à la frontière, 4000 réservistes. Mais là Mathieu, on est dans l'ordre du symbole parce que ces soldats de réserve seront là en soutien logistique aux gardes frontières. Pas question pour eux d'arrêter directement les migrants. Il y a aussi toujours cette question du mur récurrente que Trump met sur la table quasiment chaque semaine, mais qui pour l'instant n'est pas financée. Et donc maintenant, la Maison-Blanche annonce qu'elle veut revenir sur cette politique du catch and release. C'était l'une des promesses de campagne du candidat Trump, mais pour l'instant, il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas les centres de rétention nécessaires pour accueillir ces migrants qui resteraient en détention.
Merci à vous, Grégory Phillips, en direct de Washington. Peu après une messe en mémoire de son épouse décédée il y a un an, jour pour jour, l'ex-président Lula affirme qu'il va se rendre à la justice et qu'il n'est pas au-dessus des lois. Il a été condamné, je vous le rappelle, à 12 ans de prison pour corruption. L'armée turque prétend avoir tué, blessé ou capturé 108 combattants kurdes au cours d'opérations menées dans les provinces de Diyarbakir, Sirnak, Mardin et Tunceli, dans le sud-est du pays. La mobilisation se poursuit à Air France, cinquième jour de grève, 30% des vols annulés. C'est le taux d'annulation le plus élevé depuis le début du conflit salarial en février. Les syndicats avaient prévenu que le mouvement allait se durcir après une réunion particulièrement tendue mercredi avec la direction. Réunion sévèrement écourtée, elle n'aura duré que quelques minutes. Les désaccords semblent s'enraciner. Bonsoir Eva Jednak.
Bonsoir.
Eva, toutes les tentatives de sortie du conflit ont échoué.
Oui, les deux parties intersyndicales et direction campent sur leur position. Du côté des syndicats, tous métiers confondus, pilotes, personnel au sol, navigants, on réclame une hausse générale des salaires de 6%, un chiffre qu'ils justifient par l'absence d'augmentation depuis 2011 et donc la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation. La direction, elle, juge cette hausse déraisonnable et irréaliste. Grâce aux efforts fournis depuis 7 ans, les résultats de l'entreprise certes s'améliorent, mais la dynamique de croissance reste fragile et surtout inférieure à celle de ses concurrents européens. C'est ce qu'a déclaré cette semaine le PDG d'Air France KLM, Jean-Marc Janaillac. Satisfaire les exigences des syndicats, cela coûterait 240 millions d'euros à l'entreprise selon ses propres estimations et cela remettra en cause les efforts passés et les investissements futurs. La direction avait plutôt prévu pour l'année 2018 une augmentation générale des salaires de 1% en deux temps, d'abord en avril puis en octobre. Entre ce chiffre et les 6% voulus par les syndicats, la marge de manœuvre existe, mais aucun des deux camps ne semble prêt à faire le premier pas. En attendant, le mouvement se poursuit et coûte cher à l'entreprise, entre 20 et 25 millions d'euros par jour de grève. Et 6 autres journées ont d'ores et déjà été annoncées, dont 2 la semaine prochaine, mardi et mercredi.
Merci à vous, Eva Jednak. Reprise de la grève à la SNCF ce soir, dans une heure, grève par intermittence. La direction table sur un taux de 35% de grévistes pour la journée de demain dimanche. 6 personnes interpellées et gardées à vue, toujours gardées à vue, après avoir envisagé de mener une expédition punitive à l'université parisienne de Tolbiac, établissement occupé depuis 2 semaines par des étudiants hostiles à la réforme du supérieur. Mathieu Mondoloni, vous vous êtes rendu sur le campus.
Devant les grilles cadenassées et surveillées par des étudiants, de nombreux bris de verre jonchent encore le sol. Témoignage de l'affrontement qui s'est déroulé hier soir.
C'est impressionnant, ouais.
Et qu'a filmé Lamia. Elle habite juste en face de l'université.
J'ai juste vu une dizaine de jeunes avec des casques sur le visage, des casques de moto, qui envoyaient des fumigènes et des morceaux de bois avec du feu sur les étudiants à l'intérieur. Enfin, ça fait toujours un peu peur. Ouais.
Pour Arthur, étudiant en histoire et présent hier soir, il n'y a pas de doute sur les auteurs de cette attaque.
C'est sûr que c'est l'extrême droite, vu leur slogan raciste, homophobe. Après, quel groupe ? Moi, j'en sais rien. Par contre, voilà, à la fois leur méthode, leur armement, etc., c'est assez reconnaissable.
Les étudiants disent s'attendre à de nouvelles tentatives d'intimidation, mais ne les craignent pas, explique encore Arthur.
Ils n'ont pas réussi à nous intimider ou quoi ? Et on continuera cette occupation jusqu'à qu'il y ait cette abrogation du plan étudiant. Et ce n'est pas 15 petits fachos d'extrême droite qui sont venus tabasser des étudiants un vendredi soir qui vont nous empêcher et qui vont nous faire reculer, quoi.
La présidence de l'université a de son côté condamné très fermement les actes de violence et dit souhaiter un retour à la normale le plus rapidement possible sur le site de Tolbiac, bloqué depuis maintenant 13 jours.
En cette 27e journée du Salon du Livre Politique, attardons-nous sur 2 ouvrages récompensés par France Culture. Le premier, Fille de révolutionnaire de Laurence Debray chez Stock, a reçu aussi le prix des députés et le prix des journalistes. L'on a décerné au second le prix étudiant de la BD politique, parrainé également par votre chaîne préférée. Son titre, Pays un de nous, chez Stankis, que l'on doit à 2 femmes, Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir Mathieu.
Ludovic, vous dirigez le service politique de la rédaction et vous nous dites que ces deux ouvrages ont à voir l'un avec l'autre et réciproquement.
Bah oui, ce sont finalement 2 tranches d'histoire de France qui nous parlent à nous parce que ces 2 ouvrages nous racontent 2 histoires de famille aussi, celle de Laurence Debray, fille de révolutionnaire chez Stock, une fille de l'écrivain Régis Debray et de l'intellectuelle Elisabeth Burgos, et puis cette BD, Pays en nous, celle de Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau qui raconte l'histoire de leurs ancêtres aussi, leur famille en Guadeloupe. C'est une BD enquête qui nous a, à nous, appris, le jury étudiant ne connaissait pas l'existence de ce Bumidom, une agence d'État qui, à partir des années 60, aura organisé en 20 ans d'existence l'émigration de 160 000 personnes originaires de l'outre-mer vers la métropole. Et l'outre-mer, on le sait, en 2018, est un sujet puissamment politique. Et puis, ces 2 ouvrages parlent de quête des racines, de quête identitaire. C'est aussi un sujet actuel. Nos jurés ont récompensé Laurence Debray, comme l'avait fait un peu plus tôt, vous l'avez dit, 2 autres jurys, celui des députés et celui des journalistes, et 3 prix prix pour le même auteur en une journée. C'est le premier grand chelem ici en 27 éditions du livre politique à l'Assemblée nationale. Dernier point commun, Mathieu, entre ces deux ouvrages, récompensé par notre jury étudiant brillant, eh bien, ce sont trois femmes, trois lauréates qui ont été saluées.
Merci à vous, merci Ludovic Piétenu. Quelques mots de la météo demain, temps perturbé au sud, avec des pluies soutenues en Occitanie, un vent fort, très fort en Méditerranée, rafales comprises entre 80 et 120 km/h. Cette édition était préparée avec Caroline Beneteau, à la technique Jean-Guy Lamège.